Chapitre 9. Le chapitre 9 des Actes, vu sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 9 des Actes n'est pas simplement une anecdote personnelle de la conversion du persécuteur Saul, mais un tournant décisif montrant comment un être humain qui était au sommet de la loi et du zèle religieux est complètement démantelé et reconstruit devant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu révèle clairement à travers les événements historiques de ce chapitre pourquoi il a changé le légaliste le plus zélé en le témoin le plus complet de l'Évangile. Actes chapitre 9, versets 1 à 2, l'état de Saul, le danger du zèle religieux sans l'enlèvement des péchés. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Le chapitre 9 des Actes, versets 1 et 2, commence par la scène où Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rend chez le souverain sacrificateur et demande des lettres à apporter aux diverses synagogues de Damas. Saul était convaincu qu'il était lui-même une personne juste servant Dieu, mais sa réalité n'était rien de plus qu'un zèle religieux meurtrier, essayant d'établir la justice humaine alors que ses péchés restaient non traités. L'état de Saul montre clairement que le zèle légaliste, qui n'est pas fondé sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, se tient inévitablement dans la position de persécuter le véritable évangile. Actes chapitre 9, versets 3 à 5, sur le chemin de Damas, Saul réalise que celui qu'il persécutait était Christ lui-même. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Lorsque Saul s'est approché de Damas, soudain une lumière venant du ciel a resplendi autour de lui. Et une voix s'est fait entendre disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Lorsque Saul a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur s'est révélé disant « Je suis Jésus que tu persécutes. » Bien que Saul n'ait jamais persécuté Jésus directement, il a réalisé que persécuter l'Église, qui est le rassemblement de ceux qui croient en l'Évangile du salut selon lequel les péchés avaient été déjà pris fin par le baptême de Jésus et la croix, c'est exactement persécuter Christ. Ce fut un événement qui a exposé que Saul, qui était un expert de la loi, ne connaissait en réalité pas du tout Christ, la substance du salut. Actes chapitre 9, versets 6 à 9, Saul aveugle, la vue de la loi s'effondre et se prosterne devant l'Évangile. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Submergé par la lumière, Saul s'est relevé de terre et a ouvert les yeux, mais il ne voyait rien et a été conduit par les mains des hommes à Damas. Il est resté pendant 3 jours sans voir, ne mangeant ni ne buvant, ce qui symbolise que toute la vue religieuse de Saul, qui s'était vanté de voir la loi, s'est complètement effondrée devant la lumière de l'Évangile. Cette période fut un temps de renoncement à soi-même complet, où Saul a totalement arrêté sa propre justice et n'a attendu que la miséricorde de Dieu dans le désespoir que le problème du péché ne pouvait pas être résolu par l'effort humain. Actes chapitre 9, versets 10 à 18. L'imposition des mains et le baptême d'Ananias, restauration et confirmation de la vision évangélique. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, J'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Le Seigneur envoie le disciple Ananias et dit « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Ananias impose les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Immédiatement, lorsque quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saul et qu'il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Ce baptême n'était pas une condition pour l'enlèvement des péchés, mais une confession évangélique reconnaissant par la foi le fait que les péchés du monde avaient déjà été pris en charge de par le baptême de Jésus et jugés sur la croix. Actes, chapitre 9, versets 19 à 22, proclamation immédiate, un témoignage plein d'assurance découlant de la compréhension structurelle. Et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Saul, ayant pris de la nourriture et recouvré ses forces, a immédiatement prêché que Jésus est le Fils de Dieu dans toutes les synagogues. Ce changement chez Saul n'était pas une simple expérience émotionnelle, mais le résultat d'une compréhension claire de la structure du salut concernant la raison pour laquelle Jésus devait être baptisé dans le fleuve Jourdain et pourquoi il devait être crucifié sur la croix. Il confond les Juifs habitant à Damas en témoignant que Jésus est le Christ et commence à prouver logiquement le caractère inévitable de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Actes chapitre 9, versets 23 à 31, le renversement de la persécution, le chemin inévitable parcouru par un témoin de l'évangile. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, Saul passe de la position de persécuteur à celle de persécuté. Lorsque les Juifs complotent pour le tuer et gardent les portes de la ville jour et nuit, les disciples prennent Saul de nuit et le descendent par la muraille de la ville dans une corbeille. Saul se rend à Jérusalem et essaie de s'associer aux disciples. Mais quand tout le monde a peur, avec l'aide de Barnabas, il en vient à être avec les apôtres et parle avec assurance au nom du Seigneur Jésus. À travers ce processus, l'Église expérimente l'expansion de l'Évangile, où toute la contrée de la Judée, de la Galilée et de la Samarie est en paix et se tient fermement. Et marchant dans la crainte du Seigneur et l'assistance du Saint-Esprit, leur nombre augmente. Actes chapitre 9, versets 32 à 43, parallèle avec le ministère de Pierre, confirmation de la puissance du même évangile. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de l'Ide et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie « Dorcas ». Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'Ide est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis de se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Le chapitre 9 des Actes fait le lien entre l'histoire de Saul et le ministère de Pierre. Lorsque Pierre guérit le paralytique aîné vivant à Lydde, disant « Aîné, Jésus-Christ guérit, lève-toi et arrange ton lit », il se lève immédiatement. De plus, à Joppé, par le signe de la résurrection de Tabitha morte, beaucoup de gens en viennent à croire au Seigneur. Ces événements confirment que l'évangile qui est venu sur Saul et l'évangile prêché par Pierre ne sont pas différents l'un de l'autre, mais sont le même évangile de l'eau et de l'esprit et la même œuvre de vie. En conclusion, le chapitre 9 des Actes déclare que le salut ne peut jamais être atteint par le zèle pour la loi et montre que l'évangile de l'eau et de l'esprit brise complètement même la personne la plus religieuse pour la recréer en tant que véritable témoin. La conversion n'est pas une simple explosion d'émotions, mais un changement dans la perception de l'événement du salut, et le baptême est une confession de l'enlèvement des péchés déjà accomplis. En changeant le persécuteur Saul, qui se considérait comme juste sans l'assurance de l'enlèvement des péchés, en un instrument se tenant à l'avant-garde de l'Évangile, Dieu a témoigné que seul l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peut véritablement renouveler un être humain. Un sermon de Paul Sijong. La parole du chapitre 9 des Actes, versets 1 à 43, est un chapitre rapportant le tournant le plus dramatique de l'histoire chrétienne et est communément connu comme l'histoire de la conversion de Saul. Cependant, lorsque nous la regardons du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons et prêchons, nous réalisons que c'est un passage crucial montrant de quelle sorte d'évangile Dieu témoigne et comment, allant au-delà du renversement de vie d'un seul individu. Saul était une personne si fidèle à la loi et sans aucun scrupule dans sa conscience que, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il s'est rendu chez le souverain sacrificateur et a demandé des lettres à apporter aux diverses synagogues de Damas. Pourtant, son plus grand problème n'était pas un défaut moral, mais son ignorance de l'Évangile. Il était convaincu qu'il servait Dieu, mais en réalité, il s'opposait au Sauveur envoyé par Dieu. Parce qu'il n'était lié qu'à la loi sans connaître le ministère de Jésus-Christ, il a montré que le zèle humain sans l'Évangile peut plutôt devenir un outil qui s'oppose à Dieu. Alors que Saul voyageait et s'approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel a resplendi autour de lui. Mais ce qui a fondamentalement changé Saul n'était pas la lumière elle-même, mais la voix du Seigneur disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » En demandant « Qui es-tu, Seigneur ?», Saul en est venu à faire face au fait que l'Église qu'il persécutait était le corps même de Jésus, et Dieu ne l'a pas simplement brisé avec un choc émotionnel, mais l'a placé devant la vérité du salut. Saul s'est relevé de terre, et bien que ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien, et il fut sans vue pendant 3 jours, et ne mangea ni ne but. Cela symbolise le principe spirituel selon lequel ce n'est que lorsque les yeux de la chair sont aveuglés que le salut accompli par Dieu commence à être vu, et cela a poussé Saul à déposer sa propre connaissance et sa propre justice pour devenir quelqu'un qui attend la parole de Dieu. Lorsque Dieu a guéri Saul, il a utilisé un disciple nommé Ananias à Damas, ce qui montre l'ordre de Dieu selon lequel, bien que le salut soit donné directement du ciel, le contenu de l'Évangile est transmis par des personnes. Alors qu'Ananias imposait les mains à Saul et disait « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Saul a immédiatement recouvré la vue, s'est levé et a été baptisé. Le remplissage du Saint-Esprit ici n'est pas une simple expérience émotionnelle, mais signifie la confirmation de l'évangile selon lequel Jésus a été baptisé par Jean pour prendre sur lui les péchés du monde une fois pour toutes, a reçu le jugement pour ses péchés sur la croix, et que le Saint-Esprit est celui qui témoigne de ce fait. Cette réalisation a établi Saul comme un véritable apôtre. Lorsqu'il eut pris de la nourriture, Saul reprit des forces, et il prêcha immédiatement dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu, ce qui est une proclamation que Jésus est celui qui a l'autorité de prendre en charge et d'enlever les péchés. Parce que Saul savait maintenant que la loi n'apporte que la connaissance du péché, mais ne peut pas le résoudre, et que seul le ministère de Jésus-Christ peut mettre fin au péché, son évangile est devenu une confirmation plutôt qu'un argument. Même au milieu de la persécution où les Juifs complotaient pour le tuer et gardaient les portes jour et nuit, Saul n'a pas cessé de prêcher l'évangile. Même s'il s'est échappé grâce aux disciples qui l'ont descendu par la muraille dans une corbeille. C'était parce que le problème du péché était déjà complètement effacé et qu'il était justifié devant Dieu, considérant ainsi l'évangile comme plus précieux que sa propre vie. La dernière partie du chapitre 9 des Actes revient au ministère de Pierre, rapportant les événements où il a guéri un paralytique nommé Aîné et a ressuscité Tabitha d'entre les morts, ce qui est une structure intentionnelle pour montrer que l'évangile prêché par Saul et Pierre est identique. Pierre a clairement indiqué que le sujet du miracle était Jésus en disant « Aîné, Jésus-Christ guérit, lève-toi et arrange ton lit ». Et en ressuscitant Tabitha, il a également témoigné que Jésus-Christ est vivant et que son salut est vrai en se mettant à genoux, en priant, puis en ordonnant « Tabitha, lève-toi ». Bien que Saul et Pierre aient eu des antécédents différents, l'évangile qu'ils prêchaient n'était qu'un, et c'était exactement l'évangile de l'eau et de l'esprit. En conclusion, le chapitre 9 des Actes nous demande aujourd'hui si nous vivons une vie de foi avec un simple zèle religieux, ou si nous connaissons et croyons avec précision à l'évangile. Saul était un homme de zèle, mais n'était pas sauvé. Et ce n'est qu'après être devenu Paul et une personne qui connaissait l'évangile qu'il est devenu un témoin qui a secoué le monde. Une personne qui rencontre cet évangile, que Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés au fleuve Jourdain, a reçu le jugement pour ses péchés sur la croix, et que le Saint-Esprit témoigne de ce fait dans le cœur de ceux qui croient, verra sa direction et sa vie changer. Avant de changer le comportement d'une personne, Dieu nous établit comme de véritables témoins en changeant d'abord le fondement de cette âme avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Questions et réponses sur le chapitre 9 des Actes. Première, la persécution peut survenir dans le processus de prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est prêché dans l'Église de Dieu. Dans tout ce processus, Dieu peut-il accomplir les volontés que Dieu désire? En regardant le flux de la Bible, l'apparition de persécution dans le processus de prédication de l'Évangile n'est pas un événement exceptionnel, mais une scène qui apparaît à plusieurs reprises. Cependant, en même temps, la Bible témoigne clairement. Dieu est celui qui accomplit sa volonté, même au milieu de l'opposition et des obstacles humains. La persécution n'est pas un facteur qui frustre le plan de Dieu, mais elle devient plutôt un outil qui peut être utilisé au sein de ce plan. En regardant les Actes des apôtres, lorsqu'une grande persécution s'est élevée contre l'église de Jérusalem, les saints ont été dispersés. Extérieurement, c'était une crise, mais cette dispersion est devenue une opportunité pour l'expansion de l'évangile. À travers la persécution, Dieu n'a pas gardé l'évangile lié à une seule région, mais l'a fait se répandre dans des endroits plus vastes. L'hostilité humaine n'a pas pu arrêter la volonté de Dieu, et elle a plutôt été utilisée comme un canal pour accomplir le plan de Dieu. L'événement de la croix de Jésus est le même. L'opposition et la conspiration des chefs religieux étaient des actes malveillants, mais Dieu a achevé l'histoire du salut à travers cet événement. La méchanceté humaine n'a pas pu détruire la bonne volonté de Dieu. Cela s'applique également dans le processus de prédication de l'Évangile. Dieu est le souverain qui peut accomplir sa volonté, même au milieu de la faiblesse de l'Église et de la persécution du monde. La persécution peut survenir lors de la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, cette persécution ne peut pas limiter la souveraineté de Dieu. Au contraire, dans ce processus, la foi est purifiée comme de l'or pur et la véracité de l'Évangile est révélée. Dieu n'est pas quelqu'un qui est influencé par les situations, mais celui qui travaille au-dessus des situations. En conclusion, même s'il y a de la résistance et des difficultés dans le processus de prédication de l'Évangile, la volonté de Dieu n'est pas frustrée. Dieu accomplit son plan à travers l'Église et parfois même à travers la souffrance. Ce n'est pas parce que l'opposition humaine est grande que le but de Dieu est ébranlé. L'Évangile n'est pas maintenu par la puissance humaine, mais est préservé et étendu au sein de la souveraineté de Dieu. Deuxième, dans l'Église de Dieu, est-il préférable qu'il y ait plus de serviteurs de Dieu? La question de savoir s'il est bon qu'il y ait beaucoup de serviteurs de Dieu dans l'Église de Dieu n'est pas simplement une question de nombre, mais une question de savoir quels sont le centre et le contenu de ces serviteurs. La Bible dit que les ouvriers manquent et nous a dit de prier pour les ouvriers de la moisson. En regardant seulement cette parole, il semble que plus il y a de serviteurs de Dieu, mieux c'est. Cependant, en même temps, la Bible met également en garde contre les faux enseignants et les mercenaires. Par conséquent, le cœur n'est pas le nombre, mais s'ils se tiennent sur la vérité de l'Évangile. Qu'il y ait beaucoup de serviteurs de Dieu peut signifier qu'il y a beaucoup de canaux pour la propagation de l'Évangile. Si les personnes qui prêchent l'Évangile dans différentes régions et situations, qui s'occupent des saints et qui enseignent la parole, augmentent en nombre, l'Église peut être bâtie plus sainement. Plutôt qu'une structure où une seule personne porte tout le travail, une structure où divers membres servent selon leurs dons respectifs est biblique. Lorsque chaque membre du corps joue son propre rôle, la communauté atteint l'équilibre. Cependant, ce n'est pas parce que le nombre est grand que cela devient automatiquement sain. S'ils ont le nom de serviteurs mais que leur centre est sur leur propre gloire ou sur l'expansion du pouvoir, plus le nombre est grand, plus la confusion peut être grande à la place. La Bible fait la distinction entre le vrai berger qui s'occupe des brebis et le mercenaire qui travaille pour lui-même. Dieu regarde l'honnêteté du cœur et la pureté de l'Évangile plutôt que le nombre de fonctions. De plus, l'augmentation du nombre de serviteurs de Dieu signifie que la responsabilité grandit également ensemble. Il a été dit que ceux qui enseignent portent une plus grande responsabilité. Par conséquent, le simple fait d'augmenter les fonctions ne doit pas devenir le but. Lorsqu'une personne qui connaît la profondeur de l'Évangile et qui peut témoigner clairement de la justice de Dieu est établie, ce nombre a un sens. En conclusion, l'augmentation du nombre de serviteurs de Dieu est une bonne chose lorsqu'ils se tiennent droit sur l'Évangile. Le nombre en lui-même n'est pas le but, mais il est important que des ouvriers sincères qui peuvent garder et prêcher l'Évangile soient établis. Dieu regarde le centre plutôt que la taille ou la quantité, et lorsque ce centre est correct, l'Église peut s'étendre sainement.